L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Août 1590, 14h30. Croatoane, huit lettres gravées avec empressement et force dans la chair d'un arbre qui se dresse aux abords de la colonie. S'il avait pu imaginer un retour pareil, John White, le gouverneur de cette colonie en terre indienne, est de retour d'Angleterre après une absence longue de 3 ans. Il est désabusé. La tempête au-dessus de sa tête n'est pas encore passée. L'orage menace et le bruit du tonnerre déjà s'immisce dans le paysage sonore. Les hommes autour de lui, leurs armes en évidence, ont des yeux de bêtes apeurées. Les cuirasses de leur uniforme chantent au contact des gouttes de pluie. L'homme en charge, loin de se laisser distraire par les éléments qui s'apprêtent à se déchaîner, frise sa moustache. Il n'arrive pas à comprendre ni le sens de ce mot croatoane, ni les raisons qui ont conduit à la catastrophe qui se déroule sous son regard désabusé. Tout le monde a disparu. Nous sommes le 18 août 1590, il est 14h30. C'est l'heure H de mon histoire. Nous sommes quelques heures plus tôt. Alors que le soleil, caché par les nuages, ne donne aucune indication quant à l'heure à laquelle les deux navires approchent de la côte, John White, dans sa cabine, dessine. Oui, l'homme est un artiste reconnu, en plus d'être un homme d'État. Une double casquette rare, et qui montre sa sensibilité. Il est grand, il est charpenté, il porte un costume noir au col blanc surmonté d'un chapeau caractéristique de l'Angleterre de la Renaissance. Ses grandes bottes lui confère un charme tout particulier. Son regard qui pétille paraît former à lui seul une constellation que personne n'a encore découverte. C'est là toute son intelligence. Il gère les choses avec pragmatisme et mesure. Le quinca perclut des rhumatismes de ceux qui sont habitués à prendre la mer, affûte ses crayons comme d'autres leurs épées. Le second navire, le Hopewell, est visible des fenêtres de sa cabine. John voit les marins qui s'y affairent. Le vent se lève et ils se pendent au cordage pour réduire la voilure et tenter de limiter les dégâts à venir. La rive de Roanoke a été aperçue une heure plus tôt. L'arrivée ne devrait plus tarder, enfin, du moins il l'espère. Quel bonheur de revoir, même de loin, un morceau de terre ferme après ce si long voyage. John White, le coup de crayon aussi sûr que d'habitude, griffonne des Indiens qui dansent. Ces gens l'admirent, autant qu'il en a peur. Il ne saurait dire quel sentiment l'emporte. L'équipage du Moonlight, le navire sur lequel lui se trouve, est aussi en train de se préparer à l'assaut. Car oui, oui, les tempêtes en mer sont comme des batailles. Il faut être impitoyable et user de stratégie. Les voiles sont repliées. Il entend le bruit caractéristique de l'immense toile qui bat sous les coups de vent. C'est le signal pour le gouverneur qu'il est temps de refermer son carnet à dessein. Un regret, car eh oui, le devoir l'appelle une fois de plus. Par précaution, il laisse son chapeau posé sur son bureau, de peur de le voir s'envoler dès qu'il aura mis le pied hors de la cabine. Le bois autour de lui craque et, bien qu'il ne soit pas marin, son intuition lui fait dire que quelque chose ne va pas se passer comme prévu. En effet, une fois arrivé sur le pont du navire, ses cheveux, frénétiquement, vont et viennent dans une danse effrénée. Il est contraint de s'accrocher à ce qu'il peut trouver pour se tenir. Le second navire, à côté, semble en plus mauvaise posture, à la merci des vagues qui se succèdent et frappent sans cesse le bois sans ménagement. Le capitaine du vaisseau à la barre lui ordonne de rentrer se mettre à l'abri. Alors John s'exécute, de peur de finir par-dessus bord. Durant 2 longues heures, et alors qu'au petit matin tout allait encore bien, les deux équipages vont se battre à corps perdu pour maintenir les navires à flot. Le bureau et les chaises de la cabine de notre héros bougent, se renversent. Ses réserves d'alcool se brisent, comme si une colère divine leur interdisait de revenir sur cette terre qu'il a été chargé, lui, John White, de coloniser. Ah, les éléments peuvent bien tenter de lui mener la vie dure. Il est de retour et il compte bien y rester. Il en est persuadé. À terre, nombre de ses amis l'attendent de pied ferme. Ce soir, une grande fête sera donnée à Roanoke et la mère ne pourra pas leur prendre ce plaisir. Effectivement, John White ne s'était pas trompé. Le mauvais temps s'est décidé à battre en retraite. Il a tout de même emmené avec lui sept marins partis rejoindre les sirènes au fond de cet océan pour le moins chahuté. Mais le principal est sauf. Les navires vont bien, hormis quelques réparations effectuées et la plupart des équipages aussi. C'est donc avec un soulagement non fin que tous mettent pied à terre à environ un petit kilomètre de la colonie. Dès qu'il foule de ses bottes le sable fin de la plage qui les accueille, John White ressent comme un mauvais pressentiment. Il hume l'air tout autour de lui, comme le ferait un animal sous la menace d'un prédateur. Personne n'est venu les accueillir. Pourtant, les navires, bloqués dans la tempête, devaient être visibles de loin et pendant des heures. Tout cela ne lui dit rien qui vaille. Le gouverneur visse son chapeau sur la tête. Il ordonne à ses hommes, un peu estomaqués eux aussi, tant par les éléments qui viennent de se déchaîner sur leur casque que par le comité d'accueil pour le moins inexistant, d'avancer. Après tout, la pluie aura peut-être eu raison des plus courageux. Au loin, les bâtiments se dessinent. White distingue les toitures des maisons qui commencent tout doucement à apparaître dans son champ de vision. Mais il ne voit personne. Pas un chat ne semble traîner dans les rues, alors que la pluie a pourtant déserté le terrain. Hormis quelques éclairs qui subsistent encore dans le ciel au loin, rien ne justifie le fait que tout le monde soit enfermé. Et puis, il y a cette drôle de sensation qui plane, qui le prend aux tripes. Et puis soudain, dans les fourrés, là, sur sa gauche, un bruissement le fait sursauter. Il fait immédiatement mettre en joue les soldats qui se trouvent avec lui, leur ordonne de viser et d'attendre son ordre pour faire feu. Mais après un deuxième bruissement, plus important, moins étouffé, le bruit disparaît. Et ils n'ont rien vu. Par précaution, White fait placer quatre hommes en queue de colonne pour protéger les arrières de ces Anglais décidément pas bien à l'aise. Et il fait accélérer le pas. Si bien qu'un petit quart d'heure plus tard, les colons arrivent chez eux. Mais là, c'est la stupéfaction. Personne. Vous m'entendez? Personne n'est là. Les maisons ont été laissées grandes ouvertes. Les fenêtres et les portes semblent vomir des affaires en désordre. Il paraît clair que les pilleurs sont passés par là et ont abandonné ce qui ne les intéressait pas. Rien d'autre que du matériel. Pas de cris d'enfant, aucune effusion de joie ou de signal pour alerter les habitants de leur arrivée. Rien d'autre que le vent, quelques gouttes de pluie et le crissement des portes qui vont et viennent. On se croirait dans un véritable film d'horreur. Voilà donc John White et ses deux équipages qui se trouvent au bout du monde, sans possibilité de faire demi-tour dans une colonie qu'ils ont laissée florissante et peuplée il y a de cela plus de 3 ans. Son regard se perd, ses yeux s'embuent et viennent se poser sur 2 inscriptions placées non loin l'une de l'autre. Sur un arbre, Croatoan trône et semble vouloir leur indiquer une direction. Plus loin, sur un poteau bien visible, au cœur même de la colonie, les 3 lettres C-R-O. Mais qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire? Un endroit, une piste sur laquelle se reposer pour les chercher ou bien une malédiction? John White, sans pouvoir se maîtriser, est pris de frissons incontrôlables. À côté de lui, le capitaine du navire, qui tout à l'heure encore se battait contre les éléments pour conduire ses hommes vers des foyers chauds et accueillants, est tout autant déboussolé. Le gouverneur marche parmi les fantômes, mais ne trouve aucun corps, aucune trace de sang. Rien, non, rien, rien. Les habitants de la colonie se sont juste volatilisés. Rien de plus. Son chapeau, qui lui donnait il y a peu encore une si fière allure, se gorge d'eau et s'affaisse sur son visage. Sa moustache, elle aussi, se ratatine. Il est terrorisé au fur et à mesure qu'il passe en revue les différents scénarios qui ont pu se passer en ce lieu dorénavant maudit. John White aurait pourtant de quoi être comblé. Le voilà premier homme de l'histoire à être le gouverneur d'une colonie perdue. Roanoke, elle, s'apprête à rendre fous des générations de chercheurs. Notre histoire, elle, commence bien des années plus tôt. Nous nous retrouvons une nouvelle fois au cœur de cet océan Atlantique bien connu pour ses caprices et ses coups de colère. Nous sommes le 10 juillet 1584. Deux bateaux profitent des conditions favorables pour voler sur les eaux et se rapprocher de leur point de destination qui se trouve sur un bout de terre situé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Caroline du Nord. Cette expédition, adoubée par la reine vierge, la terrible Élisabeth Ier d'Angleterre, n'est pas menée par John White, mais il est déjà présent à bord. L'homme n'est pas encore gouverneur, mais l'installation de cette colonie au nom d'un missionnarisme chrétien bien courant à l'époque le concerne de près. Allons porter la parole du Christ en terre païenne, c'est un petit peu l'idée si vous préférez. L'ambiance sur les navires est au beau fixe. Le temps est favorable, le vent aussi. Après avoir remonté l'océan vers l'ouest, en direction des Antilles, la terre ferme est enfin en vue. Elle est apparue il y a 4 jours. En effet, Cap Fear s'est dressé telle une magnifique montagne annonçant aux voyageurs qu'il touchait presque au but. Des hurrahs, lancés depuis les ponts des deux bateaux, avaient donné du baume au cœur de tous les marins présents. John White, toujours penché sur son carnet de dessin, travaille sur une esquisse concernant la végétation du bord de l'eau qu'il peut observer ici et là depuis quelques jours. Ils n'ont cessé de longer cette côte sauvage. Et si cette eau calme leur confère un sentiment de sécurité, une fois le pied mis à terre, la situation sera différente. Et White sait. L'homme est un aventurier parmi les plus connus de son pays. Longtemps, il n'a pas spécialement eu le pied marin, bien au contraire. Souvent, lors de ses premiers voyages, ce sont les nausées qui ont été ses plus fidèles compagnes. Un vieux briscard qu'il avait connu lors de sa première expédition en mer lui a confié qu'il devrait s'armer de patience, mais qu'un jour, avec l'expérience, viendrait la tranquillité. Sage parole, venant pourtant d'un vieil homme à l'œil droit manquant et à la laine imbibée de rhum. Le chemin parcouru depuis avait été long et tortueux. Ses croquis, ses dessins sont un moyen unique, au fond, de transmettre ce qu'il a vécu ici et là. Comme un professeur qui n'ouvrirait jamais la bouche, mais se servirait uniquement de ses crayons et pinceaux pour communiquer, White enseigne. Les paysages du bout du monde, les autochtones qu'il parvient parfois à croiser entre deux aventures, les animaux, enfin, tous très différents de ceux de son pays natal. « Les voyages forgent la jeunesse, » dit l'adage. « Ils adoucissent les vieux jours également. » C'est pour lui une certitude. Le vent se lève un peu et, dans les gréements, quelques gouttes d'eau propulsées par Mercure viennent mourir dans les voiles. Les marins échangent quelques amabilités et l'ambiance n'est pas encore à la stupeur, non. Non, pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Les navires avancent à bon rythme, le contact avec la Terre est établi. Que demande le peuple ? En tous les cas, White se contente de ses quelques satisfactions. Il faut savoir dans la vie aimer les petits bonheurs pour vivre avec le cœur léger. Ils auront la sensation d'arriver en terre sauvage, certainement remplie de monstres mangeurs de chrétiens, ou pire, de ceux qu'on appelle déjà les Indiens. Cette idée le perturbe dans son travail du jour. Il n'est pas satisfait de son croquis et râle à voix haute. Et comme si cela ne suffisait pas, pour en rajouter à sa frustration, un marin qui passe à côté de lui se penche par-dessus son épaule, grimace devant ces arbres qui ressemblent à tout sauf à des arbres et repart. Merci du soutien. John White, courroucé mais amusé par le regard extérieur d'un homme de la mer sur son art, range son petit carnet noir et se lève. Il se dirige vers la poupe du navire lorsqu'il est arrêté par le capitaine. Dans un grand sourire échangé, les deux hommes, dont les moustaches surplombent deux dentitions clairsemées, se congratulent. Ils vont y arriver. Maintenant, ça ne fait plus aucun doute. Il faut dire que l'océan s'est montré particulièrement clément durant la traversée. C'est toujours très long. Ils sont partis de Portsmouth le 27 avril, toujours dangereux puisqu'on ne peut échapper à quelques tempêtes éparses. Mais dans le cas présent, ils n'ont pas pris de retard. pour White, c'est le premier voyage du genre et il est presque réconcilié avec la mer, lui qui est un phobique des profondeurs. Quelle horreur que de s'imaginer couler par le fond. Le Kraken, les sirènes, les créatures mythiques qui se terrent et partent à la chasse aux hommes assez fous pour s'aventurer vers l'inconnu. Rien que d'y penser, il a les poils qui se dressent. Non, leur objectif est clair. Les navigateurs ont ciblé une crique qu'ils devraient, selon le capitaine, atteindre en 3 jours. Et ce point n'a pas été choisi par hasard. Il borde une île découverte par le grand explorateur Fernande et donc est bien renseigné sur les cartes qu'ils ont à leur disposition. Comme le dit le chef de l'expédition qui, lui, va repartir aussitôt en direction de l'Angleterre pour aviser la reine de son succès, il est nécessaire d'aborder les choses avec 2 éléments, la prudence et la sécurité. Voilà les paroles d'un sage, se dit White, en se penchant par-dessus bord afin de voir l'écume glisser sous la coque du navire. Il pense à ses prochains dessins. Il se voit bien dessiner des indigènes s'ils sont amenés à en rencontrer rapidement. Bon, après tout, son art est aussi celui de transmettre, de coucher sur le papier les rencontres et les nouveautés qu'ils seront amenés à croiser. De temps en temps, l'artiste se redresse et prend de grandes inspirations d'air frais. Le sel de l'océan vient lui caresser les narines et en regardant le soleil, il éternue. Le nouveau monde lui tend maintenant les bras. John White est saisi d'un grand bonheur quand il pense à ce que sera son futur dans cet endroit que les rumeurs annoncent paradisiaque. Allez, plus que 3 jours en mer et puis ce sera le début de l'aventure. Avec ses plaisirs, ses découvertes et ses dangers. Ainsi, les prévisions du capitaine de l'un des 2 navires étaient bonnes. Pied fut mis à terre le 13 juillet, en début de matinée. Oh, bien entendu, le fait de longer la côte de cette manière pendant près d'une semaine a attiré les regards de ceux qui habitent déjà là. Ceux que ces Blancs venus d'Europe appellent les indigènes, mais qui en réalité sont les natifs, ceux qui, depuis des milliers d'années, arpentent ces terres. Pour eux, l'arrivée de ces Européens n'est pas une surprise, ni une découverte. La première rencontre remonte déjà à loin, et dans leur folklore, la notion d'hommes différents venant les rejoindre par la mer est bien intégrée. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, Fernandez a déjà découvert cette zone, et effectivement, elle est paradisiaque. Ceux qui rentreront en Angleterre durant l'automne n'hésiteront pas à comparer cette colonie au jardin d'Éden, rien que ça. 2 tribus vivent ici. Les Croatoans, tiens, rappelez-vous l'inscription sur l'arbre, et les Setocanes. Elles se partagent les terres sur lesquelles s'installent rapidement ceux qui sont venus d'Europe. Mais la colonie se trouve être plutôt sur le territoire des Setocanes qui, rapidement, envoient des émissaires pour établir le contact. Oh, rassurez-vous, il ne s'agit pas de velléités guerrières, au contraire. Les rapports sont tellement amicaux dès le départ que la tribu vient déposer de la nourriture et, en signe de gratitude, autorise que Wanchis, l'un de leurs plus fiers chefs de guerre, embarque avec un autre indien croatoan lors du prochain retour vers l'Angleterre. Alors, pour la petite histoire, vous vous doutez bien qu'une fois sur place, les 2 hommes firent sensation à la cour. Une équipe de scientifiques fut chargée de décrypter leur langue et de leur enseigner l'anglais. Ce Wanchis envisagea dès le départ les Européens du Nouveau Monde avec méfiance. Sans agressivité, mais avec prudence. Ils survivront en tous les cas à ce périple et reviendront parmi les leurs auréolés de gloire en avril 1585. Je referme cette parenthèse. Sur place, pour ceux qui se sont installés durablement au milieu des grands arbres et juste devant l'océan qui se déroule sous leurs yeux ébahis à perte de vue, il est temps de trouver un nom. Alors bien entendu, rien n'est soumis au vote. C'est aux nobles autorisés par la reine à coloniser ces terres qu'est donnée la primeur de cette réflexion. Il opte pour le nom de Virginia, qui ira bien des années plus tard s'accoler au territoire de la Virginie actuelle. Vous n'avez pas les références ? Élisabeth Ière d'Angleterre est surnommée la reine Vierge. Vierge ? Virginia, vous avez compris. C'est un hommage en bonne et due forme à la souveraine d'un pays alors en pleine expansion depuis le règne de son père, le gargantuesque Henri VIII. Voilà donc nos premiers colons qui s'affairent à la construction d'un petit bourg, puis d'un petit village avec les quelques éléments qui les entourent et d'autres mis à disposition par les Amérindiens. Ils seront très peu à y rester. White, lui aussi, finalement, reprendra la mer avec les deux Indiens. L'idée était surtout de pouvoir fixer un point de ralliement pour les nouvelles expéditions à venir. Malheureusement, le pire est à venir. Comme toujours, l'homme blanc est attiré par la puissance, le pouvoir, les richesses. Peu importe les difficultés qui se mettront sur son chemin et qui entraveront sa progression, ils reviendront. Cette fois avec 600 hommes, armés jusqu'aux dents. De quoi mettre des natifs qui s'étaient montrés amicaux en colère? Peut-être bien.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H se consacre à l'un des mystères les plus connus de l'histoire américaine. Au temps des grandes découvertes, des Anglais mettent le pied sur un territoire qu'ils nomment Virginie. Ils tentent de s'y installer, nouent des contacts avec les natifs sur place, s'implantent sans trop de difficultés. La plupart des colons repartent, laissant sur place une petite colonie d'hommes pour y bâtir un cœur de vie. Et puis ils décident de revenir un an plus tard. Mauvais calcul. La suite des événements va leur donner tort. La série des catastrophes s'enclenche. Et alors qu'ils ont quitté un jardin d'Éden, c'est en enfer qu'ils reviennent. Nous sommes le 27 août 1587. Ah, il est loin le temps de l'insouciance et du bonheur pour John White et les siens. Aujourd'hui, alors qu'il quitte sa colonie, ce retour en Angleterre a un goût amer. Certes, il s'en va en laissant une petite centaine de personnes qui restent ici, dont sa propre fille, qui vient de donner naissance à Virginie, la première chrétienne du Nouveau Monde. Et il a été nommé gouverneur de ce territoire. Et pour le reste, l'homme qui n'avait encore aucun cheveu blanc en 1584 s'en trouve recouvert 3 ans plus tard. Il n'a aucune idée de la manière dont il va pouvoir expliquer en Angleterre l'enchaînement de catastrophes de ces dernières années. Tout bonnement ahurissant. En 1585, les colons avaient prévu de revenir sur les lieux de leur première colonie avec un total de 600 hommes armés. 7 navires et des provisions pour des années qui se sont envolées durant le voyage. Premier mauvais présage. En effet, juste avant d'arriver, le navire qui les transportait a heurté un haut fond, emportant dans les abysses la plupart des provisions. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. L'installation pérenne de la colonie, donc, dès le départ, se trouve menacée. Au lieu des 600 prévus au départ, White et les autres responsables décident qu'une centaine d'entre eux seulement resteront sur place. Les autres vont repartir. Néanmoins, c'est assez pour maintenir le niveau de fonctionnement de la colonie avant l'arrivée d'une nouvelle flotte. Ainsi, malgré ses premières difficultés, tout s'est finalement bien passé. White commença par mener des expéditions dans les terres afin de visiter les villages amérindiens Setocan. De belles études en son nez, mais à leur retour, première déconvenue. Une coupe en argent a disparu. Sans même chercher plus loin, les chefs militaires accusent d'office les natifs. De retour au village, alors que personne ne veut rendre la coupe prétendument volée, les Européens brûlent le village, montrent les muscles et font fuir les habitants. En conviendrez, c'est pas le meilleur signal. En y repensant, White a les larmes qui lui montent aux yeux. Quelle cruauté déployée après ça. Pour une coupe que ces pauvres bougres n'ont finalement sans doute jamais prise. Bien décidés à éviter ce genre de drame à l'avenir, les natifs, eux, accordent des terres aux Anglais pour réduire les tensions. Tout le monde se met d'accord sur le fait que l'île de Roanoke serait la plus indiquée. Un fort est construit au nord de l'île. À la suite de la saison 1585, 109 hommes, dont White, restèrent sur place pour y passer l'hiver, alors qu'un navire repartit pour l'Angleterre. Une partie des colons explora les territoires amérindiens dans l'espoir d'y trouver de l'or, du cuivre ou de l'argent. Pour les aider à passer l'hiver, les natifs leur fournirent du maïs en grande quantité, mais bientôt, tout fut épuisé. L'hiver fut donc particulièrement difficile et certains des exilés moururent de faim ou de maladie. John White, lui, a tenu le choc durant cette période particulièrement compliquée moralement pour les hommes. Mais pour ne rien arranger, les expéditions dans les villages alentours ramenèrent chez les natifs des épidémies qui causèrent des ravages. Le partage de germes, quand on ne dispose pas de la même immunité, peut avoir des effets désastreux. Les tribus finissent donc à force par se lasser de ces visiteurs à qui ils fournissent nourriture et terre et qui, en échange, leur amènent mort, maladie et tension. Et puis enfin, au printemps 1586, la catastrophe s'est profilée. Le 20 avril, le chef Setokan, dernier garant du maintien d'un dialogue apaisé entre les deux peuples, meurt. S'engage alors une guerre entre son successeur et les hommes blancs. White ne se souvient pas de la suite de ces événements avec précision. Il sait seulement que, passant par là en juin 1586, Sir Francis Drake évacua totalement la colonie. Seuls 15 hommes restèrent au fort pour y maintenir une présence. Mais eux aussi finirent par disparaître. John White, malheureux comme les pierres, est donc rentré en Angleterre pour se retrouver chez lui. Puis, il est revenu une nouvelle fois l'année suivante, redéposer une centaine de colons. C'est ainsi que nous le retrouvons alors qu'il repart encore une fois chercher ravitaillement et renfort. Voilà pourquoi il reprend le large ce 27 août 1587. Il n'arrivera en Angleterre qu'en novembre. Cependant, la guerre entre l'Espagne et son pays va le bloquer et le contraindre à attendre près de 3 ans supplémentaires pour envisager de rejoindre la colonie qu'il gouverne. Chose faite, le 18 août 1590, date à laquelle il trouve une place vidée de tous ses habitants. Comme un mauvais présage, à cette date du 18 août, White aurait dû fêter le 3e anniversaire de sa petite fille née sur place. Les premiers jours autour de la colonie désertée ont été consacrés à de minutieuses recherches afin de comprendre comment, pourquoi la centaine de personnes aurait pu s'évaporer. Rapidement, White et les siens se rendent compte qu'une fortification de fortune, via une palissade, a été dressée. Mais rien, rien, pas une seule âme qui vive à l'horizon. S'ils avaient été tués, la logique voudrait qu'on retrouve du sang, des corps, des ossements, des traces de lutte. Mais là, il n'y a rien. C'est à devenir fou. Et puis, au bout de 2 jours, White eut une révélation. Croatoan, c'était le nom d'une île toute proche, sur laquelle vivait une tribu. Il se serait certainement installé là-bas avec eux. Après tout, c'était pas impossible. Il se rappelle aussi qu'en 1587, il avait demandé que les gens sur place laissent un indice sur leur prochaine destination, s'il en avait une. Après tout, graver le nom de l'île était une bonne solution pour ça. Son esprit se perd et il sait au fond que cette option serait pour lui la moins douloureuse. Et pour autant, est-ce vrai? La vérité est-elle à chercher dans cet endroit? Certaines maisons ont été démantelées et des éléments transportables ont disparu. C'est un fait. Mais aucune trace. Pourtant, avant son dernier départ et sous la surveillance de sa fille, le gouverneur avait enterré 3 grandes malles avec ses effets personnels. Elles sont retrouvées hors de terre et pillées. Encore un élément bizarre. Le soir tombant, tout le monde convient de se rendre à Croatoan le lendemain. Mais là encore, la malchance les poursuit. Le câble d'ancrage de l'un des navires se rompt dans la soirée, rendant la suite de la mission de sauvetage impossible. White est alors contraint de rentrer en Angleterre, la mort dans l'âme, et sans réponse. Brisé par le chagrin, il s'éteint 3 ans plus tard, à l'âge de 53 ans. Pourtant, les recherches ne faisaient que commencer.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H porte sur la colonie disparue de Roanoke, véritable mystère de l'histoire américaine. La centaine de colons portés disparus entre 1587 et la découverte du campement en 1590 par le gouverneur de retour d'Angleterre n'a pas été localisée. Alors qu'un indice semblait les mener vers une île voisine, une avarie sur un des navires met fin de manière prématurée à l'expédition de sauvetage. Sans réponse. Sans nouvelles de sa famille, John White, le héros de cette histoire, est mort 3 ans plus tard. Mais d'autres derrière lui, à travers l'histoire, vont continuer de chercher. Et alors que près de 500 ans plus tard, le mystère n'est pas résolu, l'archéologie, peut-être, tient une piste des plus sérieuses. Nous sommes en plein cœur de l'été 2005, à Cape Creek, sur une petite île nommée Hatteras, à quelques 80 km du lieu de Roanoke, la fameuse colonie perdue. Il y a bien longtemps se tenait ici un carrefour commercial et une ville amérindienne d'importance. Mark Horton est un archéologue américain qui, depuis des années, recherche les causes de cette soudaine disparition. Il ne peut imaginer qu'une centaine de personnes puissent se volatiliser de cette manière sans qu'aucune trace d'eux ne soit jamais retrouvée. C'est particulièrement bizarre. Le quadragénaire, pinceau à la main, est en train de dégager une zone au sein de laquelle il espère trouver quelque chose lui aussi. Et en effet, son équipe et lui ne sont pas les premiers à revenir sur les lieux. Il y a tout juste 17 ans, pile au même endroit, au milieu d'autres artefacts, un autre groupe a mis la main sur une magnifique chevalière en or, de près de 10 carats, à tête de lion. Datant du milieu du XVIIe siècle, soit 60 ans après la découverte de la colonie abandonnée. Une vie d'homme, un objet noble, appartenant potentiellement à l'un des hauts responsables de la colonie. Particulièrement bizarre, au milieu d'une ville amérindienne, vous ne trouvez pas ? En tous les cas, Mark Horton, lui aussi, espère trouver un trésor. À grosses gouttes, il sue et le soleil tape sans aucun ménagement sur son chapeau d'aventurier. C'est un fan d'Indiana Jones. Un jour, en convention, il a même eu la chance de rencontrer Harrison Ford. Un homme extra. Enfin, il s'égare. L'heure est au coup de pinceau. Quelques heures de travail plus tard, enfin, certains de ses collègues appellent les autres à coups de hurlements de joie. Des objets. Ils ont des objets. Beaucoup d'os d'animaux, cerfs et tortues, certes, mais aussi des poteries de natifs. Et alors que les chercheurs perdent espoir, voilà qu'ils mettent à jour des briques artisanales importées, un œillet de noble anglais, ainsi que des restes d'un pistolet du XVIe siècle. Un pistolet anglais. C'est une énorme découverte, absolument dingue. Horton est persuadé d'avoir entre les mains les preuves de la survie d'au moins une partie des colons de Roanoke. Une partie, oui. Oui, parce que le chercheur est de ceux qui croient que le groupe s'est scindé en deux. Avant de se mélanger aux Amérindiens, d'assimiler leurs coutumes et leurs croyances, tout en gardant leurs objets. Cela expliquerait donc le fait que les gens soient partis en démontant des maisons, en déterrant les malles de White et en prenant tout ce qu'ils pouvaient transporter. Mais face à l'immensité du territoire à parcourir et peut-être n'étant pas d'accord sur le chemin à suivre, ils se sont séparés en deux groupes distincts. L'un fut mené certainement par la fille et le gendre de John White, dont le seul objectif aurait été de se fondre parmi une tribu, voulant bien les accueillir. Ce qui pourrait expliquer la découverte de ces objets mêlés. En 2015, Mark Horton a donc découvert une partie. L'autre l'aurait été en 2009 par d'autres chercheurs, à une centaine de kilomètres du camp de Roanoke, ce qui prouverait donc la scission entre les deux bandes. Et là, vous allez donc me dire « mystère résolu ». Oui, 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 mais c'est souvent le cas dans les épisodes de leur hache. Vous le savez, il y a un mais. D'autres théories, des dizaines, ont émergé entre-temps, et aucune d'entre elles ne semble encore pouvoir être écartée. Alors que s'est-il passé dans la colonie perdue de Roanoke ? Tentons, au-delà de cette théorie archéologique, de percer ensemble le mystère. Adrian Masters, un historien enseignant à Houston, Texas, note que la colonie perdue est la zone 51 de l'histoire coloniale. Et il n'a pas tort. Les théories sont nombreuses, parfois fantasques, d'autres fois plus rationnelles. En tous les cas, chacune a ses propres partisans. La première d'entre elles issue du folklore, est relancée par une saison du célèbre show télé American Horror Story. Elle évoque l'existence d'une sorcière dont une partie du nom aurait été gravée sur place, sur l'inscription retrouvée en 1590, Cora. Scott Dawson, un écrivain, lance cette légende en 2006, parlant d'un chêne toujours vivant portant l'inscription Cora au sud de l'île sur laquelle se trouvait la colonie. Ce nom renvoie donc à une sorcière du même nom qui terrorisait les natifs à cette époque. Cet arbre, bien existant, a subi des études pour prouver qu'il vivait déjà à l'époque des faits. Elles n'ont pas été concluantes et, de toutes les manières, il reste ensuite à prouver que l'inscription est bien d'époque, elle aussi, ce qui n'a rien d'évident non plus. Passons donc au-dessus de cette piste, pour le moins légendaire et grandiloquente. Que nous reste-t-il comme option ? Elles sont multiples. La première d'entre elles mène à une attaque de la colonie par les Espagnols, alors en guerre contre l'Angleterre et qui contrôlait aussi une partie des mers. Cette théorie aurait pu avoir du sens, tant les sacs des colonies anglaises ont été fréquents par les Ibériques. Mais cela ne tient pas debout non plus, puisque des expéditions espagnoles ont été menées pour localiser la colonie jusque dans la fin des années 1600, ce qui suggère qu'ils ignoraient donc son emplacement. Un autre point conduit à une colonie perdue, plus loin dans les terres, du nom de Beachland, près d'Alligator River. Longtemps, des traditions orales et les interprétations d'une carte poussent à croire que les colons ont déserté le premier endroit pour se rendre sur ces terres plus reculées, se mélangeant petit à petit aux tribus amérindiennes. Mais sans aucune preuve matérielle, cette théorie est également difficilement prouvable. Une autre option mène, elle, vers une tentative de retour au pays de la part des colons abandonnés au départ de leur gouverneur. En effet, l'expédition de 1587 avait laissé une pinasse, un petit navire de voyage, car elle était endommagée. Il n'est pas inenvisageable que certains marins, ayant déjà fait la traversée, se trouvent parmi les colons. Rien ne nous permet cependant de le certifier. Imaginons donc ce scénario. Ces marins réparent le bateau et tout le monde embarque avec ses affaires, prenant la mer. Le navire, évitant les attaques espagnoles, aurait évité les Caraïbes. Il serait parti soit vers le nord pour rejoindre le Maine, alors une grande région de pêche pour les Anglais, ou alors aurait tenté la traversée de l'océan, lequel il aurait vite coulé corps et biens. Bon, la théorie est plausible, mais la pinasse n'était pas assez grande pour embarquer les quelques 110 ou 120 passagers. Tout bonnement, impossible. Alors pourquoi ne pas imaginer qu'une partie a pris la mer et qu'une autre est restée sur place dans une tribu ? Pourquoi pas ? Mais là aussi, nous manquons encore de preuves matérielles. L'option la plus plausible à l'heure actuelle est donc bel et bien celle mise au jour par les archéologues en 2009 puis en 2015. Mais Dawson lui-même, qui publia un livre en 2020, allant en ce sens, précise d'emblée que personne n'a encore trouvé de preuves irréfutables à ce sujet. Il est donc compliqué de prétendre avec certitude que le destin des colons de Roanoke est passé par un sauvetage proposé par les tribus alentour. Il ne faut pas oublier que les conflits ouverts entre les Britanniques et les locaux sont nombreux et durent déjà depuis longtemps lorsque White reprend la mer en 1587. Il n'est pas impossible que les natifs se soient emparés du fort, emmenant les biens matériaux et colons dans un de leurs campements. Et la suite, personne ne la connaît. La plus grande difficulté, parmi toutes les autres, reste assurément le fait que l'action s'étant située il y a plus de 400 ans, récolter des preuves est aujourd'hui difficile, voire impossible. Le fait d'avoir retrouvé cette chevalière, d'avoir trouvé des artefacts et des objets européens est déjà une véritable chance, d'autant plus lorsqu'on connaît l'immensité du territoire en Amérique du Nord. En tous les cas, le mystère, lui, reste entier. Et je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation de Sarah Jane Vowell. Cette célèbre autrice et journaliste américaine évoqua un jour le sujet de Roanoke et de ses disparus. Elle a eu cette remarque pour le moins drôle et qui reflète très bien l'état d'esprit autour de ce sujet. Je déteste la colonie perdue. En secondaire, nous faisions de l'histoire américaine et les profs nous ont dit que nous ignorions ce qui avait pu se passer dans cet endroit. Cela m'a donné des migraines Le sujet de la colonie perdue m'en a donné des années. Voilà donc pour ce récit passionnant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.